Les murmures de la Terre, épisode 4, l'automne et le printemps. Bienvenue dans le quatrième épisode des Murmures de la Terre. Un épisode d'automne où l'on aurait bien envie de se replonger dans les souvenirs d'été pour échapper au premier froid. Pour cela, je vous emmène au cœur du parc national des Écrins où vous pourrez écouter les marmottes et les oiseaux. Mais en ce moment, c'est aussi le printemps. De l'autre côté de l'océan Atlantique, à l'autre bout du monde, le temps se fait plus doux et il y a comme un air de renouveau dans l'atmosphère. Vous le verrez, on ne parle pas que de la végétation, mais aussi de politique. Vous entendrez à ce propos Angela Castañeda, qui je crois l'on peut dire qu'elle est maintenant notre correspondante officielle au Chili. On parlera de la commémoration du 11 septembre 1973, mais aussi des fiestas patrias, les fêtes patriotiques, qui auraient dû être célébrées du 14 au 18 septembre s'il n'y avait pas de pandémie mondiale. Angela nous propose aussi de nous projeter avec enthousiasme dans le plébiscite historique d'octobre, lors duquel le Chili devra décider s'il veut un changement de constitution. Tout ça, ce sera juste après une escapade dans les sommets alpins. Tendez l'oreille, les sifflements que vous entendez, ce sont ceux des marmottes.
Là, t'as rentré de l'arbre. Ah. Oups, hein.
Des sons d'oiseaux, de rivières et de marmottes, comme des photos pour capturer un paysage fugace et le ressortir, bien longtemps après, lorsqu'on a besoin d'une échappée hors de notre quotidien. Figer la montagne en une image, c'est imprimer sur elle les imaginaires qui la construisent. C'est prendre le cliché à la fois de ce relief imposant et de notre regard d'enfant émerveillé face à lui. Comment transmettre en une photo toute l'émotion que provoque notre confrontation au sommet mythique ? Victor a posé pour Transistor quelques questions à Thibaut Blais, photographe indépendant de montagne. À ce moment-là, ils marchaient tous les deux vers la crête des Kerlets, sur la commune de Saint-Martin-de-Carrière.
Moi, je suis Thibaut Blais, je suis photographe indépendant. Donc je me suis spécialisé dans la photo de montagne, de sport, paysage. J'ai aussi d'autres volets, mais sur le volet montagne, voilà, c'est vraiment ce que je préfère faire parce que j'aime bien être dehors, j'aime bien voir des belles choses et je pense que voilà, la montagne c'est pour moi aussi le moyen d'une de faire du sport, de deux de m'émerveiller. Donc ça fait plusieurs passions en une, plus la passion pour l'image. Donc voilà ce qui m'a mené à la photo. Après voilà, j'aime beaucoup essayer d'aller chercher des lumières que les autres photographes ne vont pas chercher. Donc les levées de soleil en altitude, les bivouacs, les photos de nuit, des choses assez spécifiques et des fois faire des choses un petit peu engagées, même si voilà, j'ai pas un niveau d'alpinisme extraordinaire, mais voilà, par exemple, dormir sur un sommet à 3000, 4000, voilà, j'adore faire ça.
Ça te fait quoi quand t'es là-haut ?
Je pense qu'il y a un sentiment très privilégié d'être devant un lever de soleil en montagne et de pouvoir immortaliser ces moments et puis en fait pouvoir les revivre à travers les images.
Et ça serait quoi ta plus grande émotion en montagne ?
Le lever de soleil au sommet du Mont Pelvoux, parce que quand on a un peu chié, qu'il a plu toute la nuit sur la tente, que t'as pas vraiment dormi, le matin tu te lèves, t'es dans le brouillard, alors qu'il avait pas annoncé mauvais temps, et puis bon, on se dit avec mon frère, on y va quand même, on monte. Donc déjà 2400 mètres de dénivelé en deux jours, avec dont 1600 avec une tente sur le dos. T'arrives en haut de ce sommet qui est très emblématique du coin, des Écrins, voilà, et puis moi il me faisait rêver, donc t'arrives en haut, t'as levé le soleil, t'es au-dessus des nuages, en plus on est monté dans le couloir Coolidge avec la pleine lune dans le dos, enfin, juste à ce moment-là j'ai un peu eu l'impression que, voilà, que quelque part la nature me parlait, alors ça fait très spirituel et je suis pas du tout spirituel, mais ouais, c'est fou quoi, le couloir il est tout étroit et t'as la pleine lune qui se lève pile dans l'axe, enfin, elle nous a accompagné un peu jusqu'au sommet, puis après... Enfin, on est passé au-dessus des nuages et le lever de soleil extraordinaire quoi. Bah en fait ouais, je pense que le Pelvoux pour moi c'est un. Parce que voilà, longtemps ça a été considéré comme la plus haute montagne en France, avant qu'on découvre la barre des écrins et puis que le Mont Blanc soit ajouté à la France via la Savoie qui avant était italienne. Du coup ouais, le Pelvoux, puis quand tu arrives à l'Argentière, c'est la montagne que tu vois, c'est celle qui t'impressionne. De quasi tous les sommets que je fais aux alentours, tu vois le Pelvoux. Donc le Pelvoux, il est sur. Quasi toutes mes vues. Alors après, la meilleure façon de le prendre en photo, bon, il n'y en a pas spécialement, au contraire j'essaie de varier les angles, d'être relevé de soleil en face, sur une montagne proche, au loin, enfin il y a tellement de façons de prendre des photos. Après c'est sûr que être au sommet du Pelvoux, ça aide à faire des belles photos du Pelvoux, parce que en haut il y a un super plateau glaciaire, du coup il y a un paysage au-dessus même de la montagne, donc c'est assez fantastique d'avoir un premier plan comme ça, avec une vue aussi ouverte, parce que forcément on est au-dessus de tout, donc ouais, le Pelvoux c'est... voilà.
Si la montagne nous a toujours fascinés, ce n'est pas seulement parce qu'elle est un paysage à couper le souffle, mais parce qu'elle est multiple. La montagne est aussi le lieu où l'on s'échappe pour aller chercher sa liberté lorsqu'elle est abolie dans les villes et les vallées. La montagne, c'est l'endroit où l'on se cache pour résister. À la montagne, on se sent à la fois à l'abri, à l'écart du monde, et pourtant, c'est aussi le relief de tous les dangers. Pour Victor Jara, poète chilien, la montagne est source de vie. C'est de là que viennent les fleuves et le vent. C'est de sa montagne, la cordillère des Andes, dont il est question dans la chanson « Plegaria a un labrador » que nous allons écouter maintenant. Ce morceau rend hommage au musicien, torturé et tué à la suite du coup d'état du général Pinochet en septembre 1973. Victor Jara chante « Lève-toi et regarde la montagne ». Des paroles que vous entendez sur Transistor, dans une chanson pour commémorer le début de la dictature de Pinochet.
Levántate y mira la montaña, de donde viene el viento, el sol y el agua. Tú que manejas el curso de los ríos, tú que sembras el vuelo de tu alma. Levántate y mírate las manos. Para crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iremos unidos en la sangre. Hoy es el tiempo que puede ser mañana. Líbranos de aquel que nos domina en la miseria. Tráenos tu reino de justicia e igualdad. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra. danos tu fuerza y tu valor al combatir. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Levántate y mírate las manos. Para crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iremos, unidos en la sangre, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén, amén.
Le mois de septembre, au Chili, est riche d'événements commémoratifs. Un événement terrible d'abord, avec les commémorations du coup d'État de Pinochet le 11 septembre 1973. Celui-ci a mis fin au gouvernement socialiste de Salvador Allende et a entamé presque 20 ans d'une sanglante dictature qui a fait 38 000 torturés environ et plus de 3 200 tués et disparus. Mais le mois de septembre commémore des événements aussi plus joyeux, avec notamment las fiestas patrias, les fêtes patriotes, qui sont célébrées entre le 14 et le 20 septembre. Les dates officielles sont le 18, 19 et 20 septembre, mais c'est toute la semaine qui est banalisée pour fêter ça. Curieusement, la fête nationale chilienne ne marque pas le jour précis de l'indépendance de la République chilienne par rapport à l'Espagne. Elle commémore en fait une réunion qui a permis d'organiser la lutte pour cette indépendance. Le choix de cette date, plutôt que de celle de la signature, a été fait pour éviter que les célébrations ne tombent au milieu des vacances d'été, qui sont en février dans l'hémisphère sud. Au contraire, choisir septembre, c'est faire rimer la fête nationale avec l'arrivée du printemps. Andrea me dit que finalement, c'est surtout ça qu'elle apprécie en cette période. Je crois que ce que j'aime le plus dans les fêtes patriotiques, c'est la sensation que ça y est, c'est le printemps. J'ai toujours senti que quand on commence à entendre de la musique, comme la cueca, ou qu'il commence à suspendre les drapeaux, c'est que ça y est, le printemps va commencer et le temps va être plus doux. Parce qu'ici, dans le sud, l'hiver est vraiment, vraiment très dur. Et quant à ce que je n'aime pas dans les fêtes patriotiques, c'est avant tout l'odeur du barbecue. L'odeur de la viande super forte, parce que les gens ici, ils font la fête en faisant des barbecues et en buvant du vin. Et on a dû suspendre le drapeau, sinon c'était l'amende. Les fêtes patriotes portent bien leur nom, puisque durant cette semaine, les Chiliens et Chiliennes sont tenus de suspendre obligatoirement un drapeau à leur maison, histoire de prouver que justement, ils aiment leur pays. Pour comprendre ce que vit le pays à cette date-là, il faut aussi parler de l'aspect festif, et notamment des fameux terremotos, qui sont des boissons à base de vin blanc et d'ananas. Buvez-en quelques verres et vous obtiendrez le même effet qu'un tremblement de terre avec un sol qui tangue un peu, d'où son nom, el terremoto. Les asados, les très fameux barbecues, sont également de mise, ainsi que des rodeos et la cueca, danse nationale chilienne. Mais cette année, Covid oblige, rien ne se passe comme prévu, les restrictions du gouvernement veulent éviter tout rassemblement festif et propagation de l'épidémie. Pour Andrea, les règles sont strictes, comme l'interdiction par exemple de se rassembler à plus de 5 personnes dans les familles, mais elle pense que c'est positif, parce qu'à cette époque de l'année, les gens boivent beaucoup, et pour elle, ils ne respectent alors plus tous les gestes barrières. C'est super bizarre, il y a beaucoup de silence et bien sûr l'odeur du barbecue. Je ne sais pas si tu peux entendre les oiseaux, c'est la seule chose qu'on peut entendre. Mais si les fêtes patriotes ont un air différent cette année, Andrea m'explique que ce n'est pas seulement à cause du Covid. Cette année est celle du plébiscite, qui va avoir lieu le 25 octobre prochain dans tout le pays. Il permettra de savoir si le peuple chilien veut ou non changer de constitution. Cette dernière est toujours celle qui a été écrite pour la dictature de Pinochet. Cette volonté de changer de constitution pour en refonder une plus démocratique et plus juste, qui prenne par exemple plus en compte les droits des femmes et des populations autochtones, c'était une des revendications de la révolution sociale entamée en octobre 2019. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a tout juste un an, étudiants et étudiantes, rejoints rapidement par des milliers de Chiliens, se sont mobilisés massivement contre les inégalités économiques et sociales et le manque de démocratie dans le pays. Malgré la répression extrême qu'elles ont subie, les manifestations se sont maintenues. Et ils ont obtenu cela, les manifestants chiliens. L'organisation d'un plébiscite historique sur le changement de constitution. Dans moins de 2 semaines, les 14 millions de Chiliens devront donc décider s'ils votent Apruebo, soit en faveur d'un changement de constitution, ou Rechazo pour conserver celle écrite pour la dictature. Si Apruebo l'emporte, un autre vote aura lieu l'année suivante pour déterminer qui va écrire la nouvelle constitution entre une assemblée constituante ou une commission mixte.
Et je crois que finalement, la vraie fête de la démocratie, ce sera le plébiscite. Et je sens que ça va être une date très, très importante. Pour nous, les fêtes patriotiques, je veux dire, en plus du fait qu'on se retrouve tous et tout, la signification des fêtes patriotiques, c'est de célébrer le fait que l'on a pu devenir indépendant de la couronne espagnole, qu'on ait pu sortir du joug de la monarchie, comme on dit.
Et
je sens que cette année, avec ou sans le coronavirus, j'ai l'impression que cette fête a beaucoup plus de sens qu'une simple célébration patriotique.
Del sentido real que tiene celebrar una fiesta patria. Creo sinceramente que volver a.
Je pense que redonner du sens à cette célébration. C'est nous réapproprier des fêtes patriotiques et de cette façon construire quelque chose de beaucoup plus démocratique, qui a plus de sens et qui soit pluriel. Parce que toute cette célébration, toutes ces choses, ce sens de la patrie, de quels sont nos symboles, nos symboles officiels, quelle est notre fleur nationale, quels sont les animaux nationaux, quelle est notre danse nationale? Quelle est notre constitution? Et comment s'est construit notre régime? Tout cela a toujours été construit entre quatre murs, toujours par un petit groupe de personnes qui ont beaucoup de pouvoir. J'ai l'impression que ce plébiscite il nous offre la possibilité de pouvoir choisir tous nos symboles et construire quelque chose qui soit à nous et pas seulement à eux. Parce que j'ai l'impression que, depuis toujours, au Chili, le peuple a vécu dans leur pays. Et eux, ils vivent sur notre dos, au prix de notre souffrance et à la sueur de notre travail. Et finalement, le pays, il est à eux. L'eau, elle est à eux, les grandes entreprises sont à eux, les ressources naturelles sont à eux, le pouvoir, la monnaie, la justice, tout est à eux. Et les fêtes patriotiques, elles sont construites sur ce même modèle, elles sont à eux, à l'oligarchie, aux hommes qui ont le pouvoir, et je parle d'hommes parce que ce sont surtout des hommes. Donc, je crois que ces fêtes patriotiques, et ce 25 octobre, le jour du plébiscite, non seulement ça va être un jour où on va pouvoir aller voter, mais ce sera aussi un jour où on pourra redonner du sens et récupérer notre pouvoir. Tout ça si les gens vont voter à Pruebo, ce que tout le monde espère, ce que beaucoup espèrent, pour construire un Chili qui soit beaucoup plus juste. Au sens du bon vivre ensemble, qui soit beaucoup plus démocratique.
Un plébiscite au Chili, ce n'est pas anodin. Cet événement politique rappelle le référendum du 5 octobre 1988, celui qui a marqué le début de la transition démocratique et le début de la fin de la dictature de Pinochet. Ce jour-là, les Chiliens avaient le choix entre prolonger le pouvoir d'Augusto Pinochet ou y mettre fin. 56% des voix ont été en faveur du « non » à la prolongation du pouvoir. Un jour d'octobre qui résonne avec celui que va vivre le Chili le mois prochain, lors du plébiscite sur le changement de constitution. Parce qu'elle étudie les sciences politiques, la campagne médiatique de 1988, Andrela la connaît par cœur. Alors, voir celle de 2020 à la télé, forcément, ça ne la laisse pas indifférente.
Aujourd'hui, la campagne électorale a commencé à la télévision pour le plébiscite. Et j'ai pleuré. Pour moi, voir les spots de campagne des deux plébiscites précédents, c'était une tradition depuis toujours. Et voir ça, cette campagne-là, pour moi, c'était impensable. Jamais j'aurais imaginé un jour que ça allait arriver. Et je te jure, quand j'ai vu le spot à la télé, je me suis mise à pleurer parce que ça m'a beaucoup émue. Ça m'a énormément émue. Parce qu'en vrai, depuis que je suis petite, on me parle de ce processus de plébiscite. Et le voir se produire aujourd'hui, se dire que la constitution va changer, je sais pas, je te jure que ça m'a beaucoup ému.
Le plébiscite du 25 octobre, nous y dédierons bien sûr un épisode spécial des Murmures de la Terre dans 15 jours, juste après les résultats. Avant ça, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour écouter le récit du DJ chilien Antu. Si vous êtes lyonnais ou lyonnaise, vous avez peut-être entendu ses mix au soudaka, aux valseuses ou aux platanes. Il viendra nous parler de son travail musical politique et décolonial et a sélectionné pour vous quelques morceaux incroyables. Pour la réalisation de cet épisode, je dis un grand merci à Victor Andrade pour les sons de la montagne et à Thibaut Blais d'avoir répondu à ses questions. Merci à Adèle Domas pour la traduction et merci aussi à Andrea Castagnada pour son témoignage que l'on retrouvera très bientôt.